Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la conférence sur la coordination dans les nages alternés, crawl et dos crawlé, avec la deuxième partie d'application et d'intervention, c'est-à-dire la partie pratique. Le plan de cette intervention, agrémenté de nombreuses vidéos, concerne l'apprentissage de la complexité de la coordination, les situations d'intervention chez l'expert, les situations d'intervention chez le non-expert en crawl et des situations d'intervention chez le non-expert en dos crawlé, avec une petite conclusion. L'introduction pourrait s'appeler « L'apprentissage de la complexité de la coordination n'est pas un long fleuve tranquille ». J'avais déjà présenté cette complexité de coordination dans l'ouvrage collectif « Natation au collège et au lycée » avec mes collègues Pelayo, Maillard, Rosier. Et j'avais présenté cette modalité en 12 étapes que je vais reprendre à partir donc des illustrations réalisées dans le dernier ouvrage « Nager un crawl performant ». Alors, pour pouvoir coordonner plusieurs mouvements ensemble, c'est pas simple, par exemple, de coordonner des actions qui sont différentes dans l'espace et dans le temps. Eh bien, on va commencer par une première étape qui est une étape statique. En d'autres termes, repérer une position statique, quelle qu'elle soit, est beaucoup plus simple par rapport à la logique des capteurs, et je vous renvoie à la conférence donc de justification sur la correction de la brasse dissymétrique, dans laquelle tous ces éléments ont été repris. Donc, une position statique est la première étape. La deuxième est le repérage spatial d'une trajectoire, c'est-à-dire je peux tracer un trait comme si j'avais un crayon au bout des doigts et que je trace un trait et je peux retrouver une trajectoire. Donc on est sur une complexité donc, qui avance entre une position et une trajectoire. Et la troisième dimension est une dimension temporelle, c'est-à-dire réaliser un mouvement pendant un temps donné, par exemple un trajet rectiligne, simple, mais qui dure un temps donné, ici une seconde. Donc vous voyez que la complexité va être progressive entre une position, une trajectoire et un mouvement réalisé dans un temps donné, puisque la dimension statique, dynamique et temporelle vont être évidemment progressives. Mais on est encore loin de la coordination des deux bras en crawl. La quatrième modalité va combiner deux facteurs, que sont le facteur de la trajectoire, mais réalisé pendant un temps donné. Donc on voit ici qu'on a une trajectoire qui est sinusoïdale avec un temps donné. Le cinquième niveau, qui se complexifie encore plus, c'est de réaliser un mouvement pendant un temps donné, par exemple ici d'une seconde, mais que ce mouvement est composé d'une accélération. C'est-à-dire que la vitesse de réalisation n'est pas uniforme, mais la vitesse de réalisation est lente au début et accélérée à la fin. Donc on est bien sur une modification temporelle qui est l'accélération. Le sixième niveau de complexité, c'est une accélération qui va durer un certain laps de temps, mais sur une trajectoire qui n'est pas une trajectoire rectiligne, qui est une trajectoire sinusoïdale. Le septième niveau est composé d'un mouvement qui va durer un temps donné, par exemple toujours ici une seconde, mais qui est composé non pas d'une accélération, mais de trois accélérations qui représentent quelque part la logique du crawl, c'est-à-dire une première accélération sur la première phase du mouvement, une deuxième accélération, puis une troisième accélération, ce qui correspond assez bien à la logique de l'expert quand il réalise un mouvement correctement. Alors, à partir du huitième niveau, démarre, nous avons deux bras. Pour l'instant, je ne me suis intéressé qu'à un seul bras, c'est-à-dire les sept premiers niveaux ont été réalisés, par exemple, si on veut le faire en pratique, avec un bras le long du corps, et donc on réalise ce mouvement de plus en plus complexe jusqu'au septième niveau à partir d'un seul bras. Et bien maintenant, on va reprendre quelque chose de très simple, un mouvement avec le bras, on revient en arrière dans la complexité, donc pour un mouvement temporellement non accéléré, c'est-à-dire continu sur une durée temporelle d'une seconde, mais pendant ce temps-là, eh bien, on va avoir un retour qui va durer le même temps avec le bras opposé. Donc, ça donne tout simplement un mouvement qui va être réalisé en même temps pendant le mouvement, on va dire, qui reprend la problématique de la propulsion et celui-là qui reprend la problématique du retour, c'est le huitième niveau. Alors, le neuvième niveau, évidemment, va rentrer progressivement dans cette complexité. On va reprendre les phases linéaire, mais donc plus complexe en sinusoïde, en faisant avec un bras un mouvement un petit peu plus complexe et pendant avec l'autre un mouvement extrêmement simple. Le dixième niveau correspond au repérage de la synchronisation spatio-temporelle des déplacements simultanés en réalisant, et ça devient complexe, hein, un petit peu comme ces problématiques de complexité, eh bien, on va ici, avec un bras, réaliser trois accélérations et avec l'autre, une seule accélération dans le sens inverse. Donc, je vais en même temps faire une première, une deuxième et une troisième accélération avec un retour donc simultané. Et ça, évidemment, ça s'apprend. Là, je présente des étapes, mais évidemment, il faut un certain laps de temps pour stabiliser cet apprentissage. Les deux derniers niveaux, évidemment, vont se repérer ou se représenter dans une problématique du type crawl, dans lequel, eh bien, avec un bras, je vais réaliser une phase de prise d'appui, c'est-à-dire un mouvement qui rentre dans l'eau et qui est sous-marin, mais qui n'est pas propulsif, puis une première, une deuxième, une troisième accélération et un dégagé. Puis, à partir de ce dégagé, une phase de retour donc, qui va être réalisée. Et avec l'autre bras, évidemment, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je vais faire un mouvement de retour donc avec un bras, puis une prise d'appui, et ensuite une première, une deuxième, une troisième accélération pendant le retour de l'autre bras. Sauf que dans cette onzième étape, on n'est pas encore... là, on est vraiment dans une problématique de coordination entre un bras et l'autre. Mais qu'est-ce qu'on coordonne? On coordonne des actions qui sont aériennes versus sous-marines, puisque pendant qu'un bras réalise un mouvement aérien, l'autre réalise un mouvement sous-marin. Mais le problème, c'est que cette phase de prise d'appui, bon, qui a été minimisée ici sur le schéma, cette phase de prise d'appui est certes une modalité sous-marine comme les trois autres, c'est-à-dire il y a quatre modalités sous-marines avec une modalité aérienne, mais le problème, c'est que cette phase de prise d'appui n'est pas propulsive, comme d'ailleurs le retour. Eh bien, la douzième logique concerne la coordination entre trois phases propulsives que sont donc la première godille, la deuxième et la troisième godille, sur les trois phases propulsives, un peu représentées comme une première accélération vers le bas et l'extérieur, vers le bas et l'intérieur, puis vers le haut et l'extérieur, hein, les trois godilles propulsives du crawl, en même temps que d'une part la prise d'appui, c'est-à-dire l'entrée de la main dans l'eau avec la prise d'appui, ce qu'on appelle catch en anglais, et le recovery, et donc représente la partie aérienne. Donc une partie sous-marine, une partie aérienne versus trois parties sous-marines, mais par contre deux parties non propulsives versus trois parties propulsives si on amène cette problématique de la coordination. Alors effectivement, il y a des tas d'étapes intermédiaires comme la propulsion rattrapée qui évidemment simplifie la modalité, puisque pendant un certain laps de temps, un bras ne fait rien. Évidemment, c'est plus simple de coordonner des mouvements avec un temps mort avec l'autre bras. Mais dans la douzième étape de cette complexité de l'apprentissage de la coordination, on est bien sur une modalité dans laquelle On est sur, en gros, l'opposition de phase entre les trois phases propulsives d'un bras et les deux phases non propulsives de l'autre bras. Bien sûr, la superposition, on va y revenir après, hein, elle n'est pas intégrée dans cet apprentissage de la complexité. On s'arrête évidemment à quelque chose d'assez simple qui est l'opposition, mais vous voyez quand même que c'est la 12e étape et que cette 12e étape est beaucoup plus complexe, évidemment, que les étapes précédentes. Deuxième partie, les situations d'intervention chez l'expert. Donc pour travailler la coordination, je rappelle que nous sommes ici dans une problématique d'application de la modalité de coordination dans les nages alternés. Ici, on va être en crawl, hein, on verra après le dos. Donc les modalités d'intervention chez l'expert vont être présentées à partir tout simplement d'un test pratique de capacité d'adapter la coordination, qui avait été présenté à l'époque dans la revue Tout à Natation. Et dans cette modalité, eh bien, je vais présenter tout simplement le modèle de l'élastique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où en course à pied ou en vélo ou en ski de fond, il y a la possibilité d'utiliser des pentes ascendantes ou des pentes descendantes pour modifier le rapport amplitude-fréquence et la durée des phases donc propulsive et les phases de retour ou tout simplement d'envol pour ce qui concerne la course à pied et donc les phases de retour pour le pédalier en ce qui concerne le vélo par exemple, eh bien on peut utiliser la pente ascendante, le plat ou la pente descendante pour modifier les contraintes. Eh bien nous en natation, à part d'utiliser un flume, ce que j'ai déjà évidemment présenté dans d'autres conférences, voire dans la présentation du rattrapé de Foster dans la partie théorique, eh bien à part d'utiliser un flume, c'est-à-dire un système à courant d'eau, donc avec le nageur qui est fixe, eh bien je vais utiliser la technique de l'élastique. L'élastique c'est quoi? Eh bien on va le voir juste après, c'est une modalité, une contrainte que je vais provoquer pour modifier la modalité des coordinations. En d'autres termes, quand l'élastique n'est pas tendu, on peut tout à fait faire du rattrapé, mais si je continue de faire du rattrapé alors que l'élastique se tend, eh bien je suis dans l'incapacité de me déplacer, sinon je recule, je fais un mouvement propulsif, j'avance, et puis si je fais rien, l'élastique, quand il est tendu, bien sûr, va me faire reculer, et si je veux atteindre le mur, il va bien falloir que je joue sur les contraintes. Alors, plus l'élastique se tend, plus les phases propulsives sont importantes au point de se superposer. Sinon, par exemple ici, Solène Figuès, qui est le modèle de ces photos, va reculer. Hein. C'est évidemment un travail qui a été réalisé donc en réel. Alors, dans le cadre de l'intervention chez l'expert, toujours en crawl, eh bien, je vais vous présenter, je suis très très heureux d'avoir pu conserver une vidéo qui, évidemment, date, comme vous allez le voir, de l'année 2002, dans la mesure où les trois nageurs qui sont présentés ici ont été tous les trois membres du relais de l'équipe de France, championne d'Europe junior en 2003, dans le 4x100 mètres. Et ils étaient tous les trois entraînés au Viking de Rouen par mon ami Éric Boissière. Et donc, je participais d'une manière très active au travail technique. Et donc, ces nageurs ont été tous les trois olympiques, avec un champion olympique pour ce qui concerne Fabien Gillot, qui a été le capitaine de l'équipe de France, un médaillé d'argent olympique et un participant olympique qui sont représentés ici. Et ces trois nageurs, Fabien Gillot, Sébastien Baudet et Grégory Mallet, sont ici ils étaient pas encore juniors, un an avant leur titre de champion d'Europe junior, dans des séances techniques réalisées au Club des Vikings. La vidéo est de très mauvaise qualité, mais on voit bien donc le type de séquence qui pouvait être réalisée.
Là, sur la poussée du bras. Donc je respire du côté du bras qui finit sa propulsion. Après, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'homme qui revient. Je remets la tête dans l'eau et je ramène le bras. En papillon, on est bien d'accord.
J'ai une pensée très émue pour mon ami Éric Boissière qui nous a quittés. Alors, dans le cadre du suivi de la coordination chez le nageur expert, je vais vous présenter quelques séquences sur le suivi technique de Julien Sicot, cette fois-ci qui était entraîné dans un premier temps par Guy Boissière, puis par Éric Boissière. Tous les deux nous ont quittés. Donc, Julien ayant été médaille d'argent au championnat d'Europe et médaille de bronze en 2004. Il a été médaillé au championnat du monde et finaliste en 2004. Donc, dans cette période-là, qui correspondait donc à ces exploits, eh bien, nous réalisions un travail technique avec, dans un premier temps, un suivi. La méthodologie était la suivante. Donc, on voit ici Julien réaliser des longueurs de bassin avec des consignes particulières. Vous voyez ici le chronomètre qui est incrusté avec un suivi. Évidemment, les images correspondantes étaient réalisées de face en vue aérienne. Les images ici sont compressées, qui ne sont pas de très bonne qualité, mais évidemment, les images avec lesquelles on a travaillé n'étaient pas compressées, nous permettaient évidemment de chercher ou de regarder un certain nombre d'éléments correspondants. Évidemment, les images que vous avez vues extraites du chariot qui se déplaçait en même temps que le nageur, ici on voit Julien, qui réalise son 25 mètres, cette fois-ci avec les vues extraites du chariot, et les images peuvent être en vue aérienne, sous-marine, de face ou de profil. C'est pour ça que je vous présente un certain nombre de séquences qui reprennent l'ensemble de sa prestation, toujours sur le même 25 mètres, mais évidemment, on en a fait beaucoup des 25 mètres, justement, pour étudier un certain nombre de paramètres. Alors, en ralenti, on va voir éventuellement, puisque le thème est la problématique de la coordination motrice, que à des vitesses élevées, eh bien, sa coordination est bien une coordination en superposition, où on va voir que encore ici, il est quasiment en opposition, où on va voir que à la fin de la propulsion d'un bras, eh bien, l'autre bras est en démarrage de la phase propulsive. Donc, si je fais un arrêt sur image ici, on voit qu'il va démarrer la propulsion avec ce bras, alors qu'il est encore en train de propulser avec l'autre main, ici la main gauche. Et donc on voit bien qu'il y a une double propulsion qui n'était pas symétrique, puisque juste avant je vous ai dit qu'il était en opposition. Donc on voit bien qu'il y a une double propulsion, et le travail de cette coordination et la capacité à réaliser cette double propulsion a été donc mise en place grâce à des techniques particulières. Je ne vous présente pas ici l'optimisation de son départ, puisque ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais deux séquences extraites du travail réalisé avec Julien, dans le cadre tout simplement de cette problématique de l'optimisation de la coordination. Alors, les deux séquences réalisées ici, on va le voir, vous voyez l'élastique, justement ce que j'ai présenté juste avant. On voit la ceinture contrôle la position de l'élastique. L'élastique est attaché au plot de départ. Et il est réglé spécifiquement pour Julien. Évidemment, si n'importe lequel des nageurs s'amuse à prendre l'élastique réglé pour Julien, eh bien, ils n'arriveront jamais, même pas aux 20 mètres. Mais là, on voit bien que c'est vraiment un nageur de sprint, et avec des modalités de force et de coordination qui lui permettent donc d'avoir un réglage extrêmement tendu de l'élastique, et pourtant d'arriver à toucher le mur du 25 mètres. Mais pour réaliser cette prestation, eh bien, il va modifier sa coordination. C'est la consigne que j'ai donnée, c'est-à-dire qu'il va démarrer avec une coordination relativement en opposition, il s'agit d'un sprint, donc évidemment, ça ne peut pas être du rattrapé, et progressivement, la contrainte de l'élastique va le forcer à augmenter les phases propulsives, c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. C'est réalisé volontairement avec une apnée, donc vous allez voir que Julien va prendre une respiration, va bloquer sa respiration, et je ne vais pas donner le départ tout de suite, je vais attendre qu'il y ait une vraie apnée avant de donner le départ.
Ah.
Donc il est en apnée, et à partir de là, l'objectif c'est de toucher le mur. Vous voyez que l'élastique est tendu, et pour autant, il va être capable de toucher le mur, c'est-à-dire de vaincre la contrainte de l'élastique qui est évidemment réglée pour lui permettre une adaptation tout simplement de sa coordination. Vous voyez que la tension de l'élastique le ramène quasiment jusqu'au début alors qu'il ne fait quasiment rien, qui montre bien que cet élastique a bien été tendu. Double contrainte, pourquoi ? Eh bien parce que lorsque l'élastique est tendu, ça va augmenter les contraintes de freinage et provoquer donc une superposition d'actions propulsives pour compenser le freinage et la résistance arrière de l'élastique tendu. Mais il y a une autre modalité évidemment tout à fait complémentaire qui rentre également dans la logique de la coordination motrice et de la superposition, qui est l'élastique qui augmente la vitesse. Alors cette fois-ci, Julien est côté opposé, là où il est arrivé tout à l'heure, mais cette fois-ci l'élastique est tendu. Et d'ailleurs, pour que la tension soit réalisée, je vais continuer de tendre l'élastique au fur et à mesure du 25 mètres de Julien. On peut évidemment faire ce type de travail en bassin de 50, mais ici l'objectif est de le faire sur des distances courtes. Et donc l'élastique est tendu dès le départ. Et je vais augmenter la tension de l'élastique. Cette fois-ci, l'objectif n'est pas d'augmenter les résistances, mais d'augmenter la vitesse. Grâce à l'élastique, la vitesse de déplacement va être beaucoup plus importante que la vitesse normale de déplacement, même pour un sprinteur comme Julien. Et grâce à ça, eh bien, il va être obligé, là aussi, d'organiser son adaptation de la coordination pour pouvoir tout simplement être performant dans le cadre de ce type de travail. Alors les vidéos que je présente évidemment sont le bilan d'un travail réalisé pendant des mois et des mois, voire des années, et donc évidemment là c'est assez spectaculaire. Donc on va voir ici la tension de l'élastique à partir du moment où il va réaliser ce 25 mètres. On voit l'élastique tendu, et là... Évidemment, la vitesse est bien plus élevée. On voit aussi que progressivement, je tire sur l'élastique pour pouvoir réaliser cette tension jusqu'au bout. Alors, dans ce cas-là, on voit bien que la problématique est évidemment d'augmenter la vitesse et la capacité d'aller à des vitesses supérieures à sa vitesse de compétition est extrêmement importante dans le cas d'une adaptation de la coordination. Voilà, pour ce qui concerne l'expert, alors maintenant je vais reprendre un certain nombre de modalités chez le non-expert. Dans un premier temps, crawl, c'est une reprise de ce que j'ai présenté dans la partie la méthodologie sur le rattrapé, hein, donc dans lequel il y a un défaut caractéristique et j'ai présenté les fiches de correction technique et je l'ai illustré par le travail réalisé sur le rattrapé. Donc je vais reprendre juste trois extraits et je prendrai référence de cette vidéo si vous voulez aller un petit peu plus loin. Alors, si on regarde les conduites typiques ou comportements typiques, alors comportement, c'est simplement quand on ne connaît pas la cause, ou les conduites typiques quand on connaît la cause. Je rappelle qu'une conduite, à la différence d'un comportement, c'est un comportement justifié. Donc, voilà la différence entre les deux. Ici, on est plutôt sur un comportement parce que la cause véritable, on ne la connaît pas vraiment. Mais ce qui nous intéresse ici, on rappelle que l'élève qui est présenté ici est une élève de terminale, qui va passer le baccalauréat, qui réalise un 50 mètres en crawl, et on voit bien là avec une image arrêtée, que à partir du moment où le plan des épaules est ici, que les deux bras sont en avant, on est obligatoirement dans une modalité de coordination en rattrapé. Je rappelle la partie théorique, hein, le rattrapé n'est pas obligatoirement une erreur, on le voit bien chez les nageurs d'eau libre ou les nageurs de longue distance, mais ici on va voir que effectivement c'est quelque chose qui est problématique. Donc voilà le 50 mètres réalisé. Il n'est pas inintéressant d'ailleurs de regarder l'autre nageuse qui nage à côté, à peu près à la même vitesse, qui a un comportement très différent, mais qui a aussi une logique en rattrapé qui est extrêmement utile, tout simplement sur son équilibre et sa respiration. Alors si on reprend la nageuse au premier plan, on voit bien qu'il y a une problématique de rattrapé qui est tout à fait caractéristique, et ce qu'on va reprendre au ralenti. Donc ici, sur cet extrait, hein, qui est la même séquence, dans laquelle on voit bien le rattrapé réalisé avec une tête relevée, avec un petit battement, etc. Mais elle est bien tout à fait capable de réaliser son 50 mètres. Si on observe au ralenti, eh bien, on voit bien que les deux bras sont effectivement très en avant, la preuve ici, du plan des épaules, et on voit bien qu'elle nage avec un seul bras. Un bras, d'ailleurs elle finit pas sa poussée, et puis ensuite retour du bras, et pendant ce temps-là, une propulsion avec l'autre bras. On peut le reprendre une deuxième fois pour deux raisons. La première, c'est qu'on va voir que, à la différence de l'expert, c'est ce que je vais essayer de présenter tout à l'heure, y compris en dos, on voit que l'épaule ici, quand on regarde la propulsion, eh bien, est hors de l'eau au moment de la propulsion, ce qui est une erreur propulsive ici, et on voit aussi que la main a fini son trajet propulsif alors que, vous voyez, le bassin est ici, donc on est à peine sur le début de la poussée au moment de la fin du trajet propulsif. Et si on regarde l'autre nageuse avec une caractéristique très différente, c'est que le bras et la respiration vont permettre tout simplement une adaptation, et ce qui ramène tout simplement à la problématique du rattrapé. Alors, comme je l'ai dit juste préalablement, nous avons en référence ici la séance d'intervention que j'ai présentée dans les corrections techniques en crawl rattrapé exagéré, autour de la fiche 24 de l'ouvrage de référence. Et dans ce cadre-là, eh bien, je vais reprendre trois séquences simplement pour les reprendre, puisque le thème du rattrapé et le thème de la coordination sont en relation. Alors, la procédure de correction, hein, qui est réalisée sur la fiche d'intervention numéro 24 de l'ouvrage de référence Nager en crawl performant, est présentée avec minimum trois situations. La première, c'est de réaliser le mouvement avec un seul bras, un petit peu ce que j'ai présenté dans le début de ma présentation, c'est-à-dire c'est beaucoup plus simple de réaliser un mouvement avec un seul bras qu'avec les deux. Et donc, on va le réaliser.
Alors,
à partir de
cette fois-ci, on est vraiment dans des exercices particuliers, complexes. Vous allez utiliser un pull buoy. Le pull buoy va symboliser le rattrapé arrière. Quand vous étiez dans la problématique rattrapé avant, le contact physique suffit. Vous allez voir que derrière, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va échanger le pull buoy. Donc, ça donne le retour de bras, donc on part comme ça, retour de bras, propulsion, je récupère le pull buoy, retour de bras, propulsion, je récupère le pull buoy, etc. D'accord ? Donc, on est en rattrapé arrière, le pull buoy symbolisant le temps mort, en l'exagérant, et pareil, pour l'instant, pas de consigne respiratoire, vous débrouillez pour respirer, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué, mais on va faire avec. C'est parti.
Alors on voit ici donc que j'ai utilisé un pull buoy pour symboliser le rattrapé, et ici on est bien dans une problématique avec deux nageurs différents dans laquelle le mouvement se réalise exclusivement avec un seul bras. Sauf que au lieu de présenter le rattrapé en phase avant, on va le présenter en phase arrière. Alors, la nage en rattrapé, elle peut être réalisée avec un pull buoy comme on vient de le voir, ou elle peut être réalisée dans des conditions un petit peu différentes.
Alors cette fois-ci, on va utiliser le pull buoy comme d'habitude pour le mettre entre les jambes, pour améliorer un peu la flottabilité, simplement pour éviter de faire des gros battements, parce que je voudrais qu'on se concentre sur les bras, donc les jambes m'intéressent moins pour l'instant. Donc vous mettez le pull buoy normal. Par contre, on reste en rattrapé arrière, et pour symboliser le rattrapé arrière, comme tout à l'heure dans le rattrapé avant, contact de la main. Donc il y a une main qui est derrière, donc je commence les deux mains derrière, retour propulsion, contact, retour propulsion, contact. Donc chaque fois, je symbolise le relais par le contact arrière de la main, mais cette fois-ci sans échanger le pull buoy. Ok ?
Donc on est bien ici sur un rattrapé arrière, bon, symbolisé, peut-être exagéré avec la main dans le dos, mais donc c'est ce que je recherche, hein, c'est tout simplement un mouvement donc d'un seul bras en décalant le rattrapé à un endroit qui n'est pas naturel et qui amène obligatoirement une première phase d'adaptation. On voit bien d'ailleurs que là, dans cette problématique-là, je n'ai pas donné de consigne respiratoire, il y a une forme d'adaptation de la consigne respiratoire. Je ne présente ici que trois situations, bien évidemment je vous renvoie à la problématique du rattrapé, de la correction du rattrapé dans une autre vidéo. La troisième situation, c'est d'organiser la simultanéité des actions propulsives et du retour des deux bras. En d'autres termes, c'est ce que j'ai présenté dans mon introduction, c'est-à-dire la capacité de faire un mouvement avec un bras pendant un autre mouvement avec l'autre bras. Évidemment, dans ce cas-là, on va utiliser une phase d'opposition, c'est-à-dire dans laquelle un bras va s'arrêter devant, l'autre va s'arrêter en arrière, pour justement vérifier, verrouiller que le point de départ de ce mouvement modifié entre la propulsion d'un bras et le retour de l'autre soit bien coordonné, c'est-à-dire on est bien dans cette problématique de la coordination motrice.
Alors, cette fois-ci, on va faire quelque chose assez différent, mais qui est dans la même problématique, c'est que on va marquer un temps mort devant, un temps mort derrière, et on va compter 1, 2, 3, comme ça, 3 secondes. Alors, ceux qui comptent 1, 2, 3, ben vous comptez 5, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, pour que ça fasse à peu près 3 secondes. Donc, 1, 2, 3, voilà. Alors, un bras devant, un bras derrière. Là, cette fois-ci, on va faire une propulsion d'un bras en même temps que le retour de l'autre, d'accord. Donc, propulsion d'un bras, retour de l'autre, ça veut dire aussi qu'au niveau des épaules, il n'y a pas d'incompatibilité. Donc, propulsion d'un bras, retour de l'autre. Et quand on arrive là, 1, 2, 3, et vous allez comprendre qu'on est dans l'autre logique, propulsion d'un bras, retour de l'autre, 1, 2, 3. Pour l'instant, je ne donne rien d'autre comme consigne. Pull buoy derrière pour aider un peu à la flottabilité. Et on repart là-dessus.
Donc ici, propulsion d'un bras, retour de l'autre. On voit bien d'ailleurs qu'il y a une difficulté à faire les deux exactement en même temps. Mais le temps mort, encore une fois, qui n'est pas tout à fait de 3 secondes, mais ce n'est pas grave, le temps mort doit permettre de verrouiller, de vérifier la coordination. Vous voyez que là, par exemple, le retour a tendance à être réalisé légèrement avant. Hein, c'est pour ça qu'on fait des séances de travail, justement, pour progressivement améliorer cette coordination. Donc la modalité en opposition dans laquelle je fais en même temps un mouvement qui dure le même temps temporel avec la propulsion et un temps avec le retour est tout à fait intéressant. Alors maintenant, je vais présenter non pas un extrait comme je viens de le faire en crawl de 3 séquences, puisqu'il y avait une intervention qui a été présentée sur cette thématique. Là, sur le dos crawlé, je n'ai pas prévu de thématique sur la coordination, donc je vais présenter ici des extraits d'une séance réalisée avec des étudiants dans le cadre de la coordination en dos crawlé. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, on est aussi là sur des comportements typiques. L'image qui est ici est extraite de la vidéo que je vais vous présenter juste après, où on voit bien que la main va démarrer sa propulsion. D'ailleurs, la main, elle est pour l'instant aérienne. Elle va démarrer sa propulsion quasiment à l'épaule. Ça veut dire que toute la phase, tout simplement en amont de l'épaule, n'est pas réalisée chez le non-expert. C'est un comportement caractéristique du non-expert. Alors, on le voit ici, on est exactement dans la même problématique. Et c'est pas par hasard, hein, les conduites typiques sont, ou les comportements caractéristiques sont tout à fait ressemblants. Que ce soit un Américain, un Chinois, un Français qui n'est pas expert en dos, ou que ce soit un garçon, une fille, etc., etc., eh bien on va voir des comportements dans lesquels il y a des différences, mais dans lesquels il y a des caractéristiques typiques. Alors, première caractéristique typique, hein, le manque de prise d'appui, évidemment qui est tout à fait différent de chez l'expert. L'épaule sous-marine, c'est-à-dire l'épaule qui dégage en phase de retour et reste sous l'eau, ce qui est également très différent de l'expert. Et on va voir maintenant chez une nageuse, toujours dans le cadre de la problématique du baccalauréat sur plusieurs nages, eh bien on va voir ce que je viens de vous présenter avec l'image arrêtée, c'est-à-dire que toute la phase tout simplement de prise d'appui est tout à fait escamotée. On va le reprendre au ralenti. Où on voit bien que le retour se fait, l'épaule à peu près correctement réalisée, mais on voit, vous voyez ici, qu'il y a une phase escamotée de l'entrée de la main dans l'eau et de la prise d'appui, puisque on va le voir d'une manière encore plus caractéristique. Ici, on voit que la propulsion démarre quasiment au niveau de l'épaule. Par contre, ce qui est caractéristique, c'est le rattrapé le long de la cuisse, qui est inversé par rapport à celui du crawl, c'est-à-dire ici, on va voir une propulsion évidemment tout à fait inadéquate, mais et pourtant elle avance, hein, et pourtant elle n'est pas trop mal équilibrée, hein, on va voir des comportements beaucoup plus problématiques que celui-ci. On voit, alors là, caractéristique de la manque de propulsion, un temps mort le long de la cuisse dans ce cadre-là. Alors maintenant, je vais vous présenter une séance réalisé avec des vidéos qui ont été un petit peu montées. Pour l'instant, ces vidéos ont été réalisées il y a quelques années, ce qui explique pourquoi aujourd'hui on a des vidéos de meilleure qualité, mais à cette époque-là, on faisait un peu avec les moyens du bord, mais la séance me semble intéressante, c'est pour ça que je vous la présente. Alors ça se passe donc à la piscine de l'île Lacroix avec un groupe d'étudiants, non spécialistes de dos, mais qui savent nager le dos, sinon ça n'a pas de sens de travailler la coordination si on n'a pas réglé les problèmes d'équilibre ou de propulsion d'une manière générale. Je vous présente la première séquence deux fois.
Regardez, à la cuisse, alors là il accélère, du coup il est à fond la caisse, mais il a coupé son rattrapé, mais il a pris évidemment tout un tas d'autres défauts.
Je parlerai sur les images sous-marines, de sorte que ce que je dis pendant la séance et ce que je vais dire maintenant soit un petit peu...
Ok.
Voilà. Alors, on voit ici que quand ils vont vite, le rattrapé n'est pas très conséquent, ce qui est évidemment pas vrai dans la situation tout simplement normale. Je reprends la même situation, c'est la vidéo 2, mais c'est toujours la situation 1 qui est diagnostique. Donc c'est la même séquence avec un petit ralenti qui va me permettre de faire quelques commentaires dans les vues sous-marines. Je rappelle que ici, la consigne, c'est peut-être sans doute une erreur de ma part, est de leur demander de faire un parcours très très court et donc du coup ils nagent vite. Plus ils nagent vite, plus le rattrapé est réduit. Alors que, évidemment, c'est l'erreur technique sur laquelle je voudrais revenir, en tout cas la coordination motrice. Alors, on va voir, par exemple ici, hein, dans les deux cas, que toutes les bulles montrent bien que la phase de prise d'appui n'a pas été réalisée dans des conditions optimales. Et on va voir aussi que le temps mort de rattraper est assez important, même si ça correspond évidemment pas du tout au comportement de la nageuse de terminale qu'on a vu préalablement. Là, ce sont des nageurs de dos qui ne sont évidemment pas experts, ça tout le monde le comprend, mais qui correspondent tout à fait à cette problématique. Alors, je présente les situations réelles qui ont été réalisées au bord du bassin.
De la barre, dos à deux bras. Je ne donne pas d'autres consignes que ça. Dos à deux bras, voilà. Ouais, mais le
problème, alors, l'intérêt du dos à deux bras est tout simplement de simplifier. Hein, on n'a pas les contraintes de réaliser deux actions en même temps dans des conditions difficiles, sauf qu'en dos, les limites articulaires vont interdire certaines modalités comme celle du papillon, par exemple, sur le ventre, où les souplesses articulaires ou les modalités articulaires des bras sont beaucoup plus performantes sur le ventre que sur le dos lorsqu'on est dans la problématique à deux bras. Ce qui m'intéresse ici, comme je suis quand même sur la problématique de la coordination, ce qui m'intéresse évidemment, bon, l'escamotage ou tout simplement l'incapacité de réaliser une vraie propulsion, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la notion de rattraper dans ce cadre-là. Quatrième vidéo, troisième situation. Désolé pour le son, hein, encore une fois, c'est une séance réelle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de marquer un petit temps mort sur un rattrapé avant, hein, même si c'est marqué ici, voilà.
Voilà. Regardez l'entrée dans l'eau. On peut presque dire qu'il n'a qu'une poussée.
Donc vous voyez, le démarrage, si je fais un arrêt sur image, on va voir que le démarrage de la propulsion va se faire quasiment au moment où les mains arrivent au plan des épaules. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a vu chez la nageuse tout à l'heure de terminale, mais on voit bien que là, il y a un manque de propulsion effectif. On est dans une situation artificielle qui est une situation de dos à deux bras. Mais évidemment, je vais utiliser cette situation de dos à deux bras qui simplifie tout simplement la coordination pour travailler. Donc évidemment, l'objectif étant d'augmenter la propulsion dès le point d'entrée de la main, c'est-à-dire la prise d'appui, pour pouvoir réaliser tout simplement cette modalité. La situation 4.
Pour l'instant, quand les mains arrivent ici, on fait dos des mains,
paume des mains,
dos des mains.
Et donc, en gros, ça va symboliser deux choses. La première, c'est 3 secondes de temps mort dans la phase de prise d'appui. Mais surtout, la capacité de structurer spatialement la position des mains pour réaliser le début de la propulsion. Donc on voit ici, paume des mains, dos des mains, paume des mains. Enfin, plus exactement, dos des mains, paume des mains, dos des mains. Mais vous voyez, chez le nageur de droite, les mains sont hors de l'eau au moment du début. Non, là, elles sont sous l'eau, donc comme quoi, ce n'est pas les mêmes images que celles qu'on a vues en aérienne. Donc ici, on voit ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que le fait de réaliser cette séquence, dos des mains, paume des mains, dos des mains, va permettre tout simplement de réaliser une séquence avec propulsion dès la prise d'appui.
Vous allez tous vous mettre en position horizontale dorsale, d'accord ? On est sur le dos, les mains sont à la cuisse.
Alors là, c'est une séquence statique,
les oreilles dans l'eau,
volontaire.
Regard vers le plafond, le ciel, c'est plus compliqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va décomposer en retour des deux bras, mais extrêmement lentement, en 5 secondes. 1, 2, 3, on est à la verticale, 4 et 5. OK?
Donc
et
on va faire un retour de bras
on revient et on fait trois
en 5 secondes décomposées.
1, 2, 3 verticales,
4, 5.
Bon, il se passe
et évidemment, les nageurs qui sont concernés ne comprennent pas de quoi il s'agit, mais vous, vous allez vite le comprendre par rapport à ce qu'on va voir. 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce qui se passe? Évidemment, un enfoncement du corps. En tout cas, un enfoncement de la tête.
Vous regardez attentivement.
Alors là, on va regarder une nageuse.
La tête est hors de l'eau.
Un nageur.
Les oreilles sont dans l'eau, les yeux.
Voilà, la tête est hors de l'eau.
1,
2, 3, la tête est sous l'eau. Et voilà ce qui se passe, qui est tout à fait ce que je recherche pour leur expliquer la problématique du dégagé et du retour.
De nous maintenir à l'équilibre à partir du moment où c'est immergé. Certains flottent ici, d'autres là, mais en tout cas, il n'y a qu'une partie du corps qui peut être maintenue.
Je vous renvoie en référence au cours sur l'équilibre et l'équilibration aquatique,
alors,
qui est un des premiers cours que j'avais présenté en vidéo,
voilà,
justement pour comprendre qu'en statique, on a le droit qu'à une petite partie du corps hors de l'eau.
Je m'enfonce pour certains très vite, pour certains relativement vite, pour d'autres moins vite. Sauf que, à partir du moment où les bras sont là, automatiquement, je vais m'enfoncer. Sauf que ça dépend de la vitesse. Okay.
Alors, l'objectif étant ici de présenter cette séquence précédente pour montrer par opposition le fait qu'un retour de bras très lent va évidemment correspondre à une modalité statique et comme on a le droit qu'à une petite partie du corps émerger, eh bien à un moment donné la tête va s'enfoncer puisque les bras, avant-bras et mains sont hors de l'eau. Donc on va voir évidemment par opposition qu'un retour rapide va éviter tout simplement cet enfoncement.
Vous allez faire la même chose, au lieu de le faire 1, 2, 3, 4, 5, vous allez le faire en une seconde. Ok, c'est parti.
Alors on va voir que, voilà, si on regarde très attentivement par exemple le premier nageur barbu ici, sa tête ne s'enfonce pas, le deuxième, la tête ne s'enfonce pas, on est bien dans cette problématique dans laquelle
1, 2, 3, 4,
et là, par opposition, on va reprendre la situation précédente et on va la faire par opposition. Un retour extrêmement rapide, un retour extrêmement lent pour montrer la différence en termes d'équilibre. Alors vous allez dire, c'est pas de la coordination. Si, puisque la vitesse de réalisation d'un retour fait partie de la problématique tout simplement de la coordination.
Regardez sa tête, hein. Le plus vite possible.
Et là, hop, okay. Et on voit que la tête ne s'est pas enfoncée. Alors, là, je ne l'ai pas présenté ici, mais ceux qui voudraient réaliser cette situation, la situation inverse, c'est-à-dire les mains étant derrière la tête et qui reviennent à la cuisse, c'est encore plus donc démonstratif. Donc au lieu de le faire main-cuisse, main-arrière de tête, on le fait dans les deux sens, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, c'est encore plus caractéristique.
J'escamote la prise d'appui. C'est-à-dire au lieu de bien me placer pour pouvoir faire un mouvement, eh bien j'escamote, j'attaque à 10h10 et je ne fais pas cette prise d'appui.
Donc, le fait que la tête s'enfonce au moment où le bras se dégage amène les comportements dans lesquels le bras, effectivement, attaque à 10h10 pour escamoter cette phase parce que le nageur non expert associe le fait que quand mon bras est à peu près ici, ma tête s'enfonce. Donc, pour éviter que la tête s'enfonce, eh bien, je vais provoquer un mouvement correspondant.
en rattraper arrière.
Alors quand j'ai dit rattraper arrière, c'est rattraper arrière par rapport au déplacement, mais c'est en fait un rattraper avant par rapport à la position des mains. Hein, donc si on prend crawl, la notion de rattraper avant, c'est les mains en avant du corps et en avant des épaules. Ici, on est donc dans un rattraper avant en ce qui concerne tout simplement la problématique de la position, mais on est dans un rattraper arrière en ce qui concerne le déplacement. Donc ici, on est en rattrapé. Évidemment, comme tout à l'heure on crawl, le rattrapé avant était un défaut, je vais travailler sur le rattrapé arrière. Et bien ici, le rattrapé arrière est un défaut, donc je vais travailler ici sur le rattrapé avant ou présenter ici.
Super.
En réalité, il s'agit plutôt d'un rattrapé avant. Et là, se rattraper me permet de réaliser un mouvement à la fois. Et vous voyez qu'il y a une amélioration dans la capacité tout simplement de réaliser une prise d'appui et un trajet propulsif en dos qui représente pas tout à fait la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, où il y avait un escamotage de la première phase propulsive, ce qui n'est pas le cas ici. La huitième situation.
Alors, là, maintenant, on va tricher un peu.
Alors, on est sur le thème de la coordination, mais en même temps, je travaille sur d'autres thématiques.
Pour un certain nombre de raisons, la principale, il y en a au moins deux principales, c'est que quand je tire avec mon bras, mon épaule n'est pas limitée, je peux réaliser des mouvements comme je veux en avant de l'épaule. Par contre, en arrière, il y a un blocage articulaire qui m'empêche de faire des mouvements comme sur le ventre. C'est la première. Et la deuxième, c'est qu'en crawl, je peux dissocier les deux bras, je peux faire ce que je veux avec les deux bras, alors que sur le dos, je ne peux pas mettre les deux bras dans une position propulsive. Donc, ce qu'on va faire, on va tricher un peu. Pour l'instant, on n'a pas le droit de le faire, mais on va le faire quand même. Vous allez faire l'exercice que je viens de vous dire, sauf que au lieu de faire du dos, vous allez vous mettre sur le côté et faire un mouvement comme si c'était du crawl. Quand vous arrivez à la cuisse, vous revenez là et vous faites la même chose dans l'autre sens. Ok ? On essaye sur 25 et vous m'attendez là-bas. C'est parti !
Alors ici, donc, on exagère l'enfoncement de l'épaule propulsive. Donc, je leur ai demandé comme s'ils nageaient sur le ventre. En réalité, là, il n'y a pas de problème réglementaire. Hein. Il n'y en a aucun qui est en difficulté, aucun ou aucune, on regarde la nageuse à côté, qui est en difficulté sur le plan réglementaire, dans la mesure où il est tout à fait acceptable enfoncer l'épaule propulsive dans le cadre du déplacement en dos. C'est ce que je vais rechercher. Donc ici, on n'est pas du tout sur le ventre. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment respecter la consigne, puisqu'on peut aller beaucoup plus loin dans dans l'enfoncement de l'épaule. Voilà, ça c'est un petit peu mieux. Donc alternativement, on voit bien que la propulsion réalisée par ce nageur qui n'est pas expert commence à ressembler à une propulsion de dos.
L'exercice est le même au départ, sauf que le mouvement de bras, c'est un mouvement de crawl. On tourne la tête, on fait un mouvement et on revient dans l'autre sens. Allez-y. Vous allez
évidemment
tromper pendant la première longueur, après je corrige.
Alors évidemment, si on avait qu'un seul nageur pour travailler, là j'insisterais beaucoup sur le crawl, mais là c'est un groupe, évidemment, pour illustrer une thématique.
Super.
Et dans ce cas-là, on a des choses intéressantes dans la problématique, tout simplement. Dans un premier temps de la propulsion, mais vous voyez que le fait de séparer un bras propulsif, donc alternativement, de faire un rattrapé par exemple, permet de rentrer sur une amélioration de la propulsion dans le cadre d'une séance de coordination motrice.
C'est pas grave. Je vous ai dit d'attendre ici pour recevoir des nouvelles consignes. Alors, on va faire la même chose sauf que la tête va accompagner le mouvement. Je rappelle que c'est pas du dos, ça n'est pas du crawl, c'est entre les deux. Donc, qu'est-ce que je
Donc
fais
Donc ici,
je
fais ça, la position de la tête là, va exagérer l'enfoncement de l'épaule dans la problématique tout simplement d'une logique de construction.
Ok, c'est parti, on se retrouve là-bas.
Voilà, ici, la tête accompagne le mouvement et on est bien sur une problématique dans laquelle le trajet propulsif est vraiment un trajet immergé et on va voir tout simplement que ce qui m'intéresse, voilà, là on est limite au niveau réglementaire, mais c'est pas grave, il suffit de changer la position de tête et tout le problème est réglé. Mais là, on exagère tout simplement l'enfoncement de l'épaule et la réalisation du trajet propulsif en dos crawlé pour améliorer tout simplement la propulsion dans le cadre tout simplement du fait qu'on veut réduire les temps morts, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Situation 9.
On fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire décalage sur le côté retour, sauf que maintenant la tête ne bouge plus. Il n'y a que l'épaule. La tête, elle reste là. Donc pendant que je tourne l'épaule, la tête reste là, je reviens. Pendant que je tourne l'épaule, la tête reste là. Okay. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que maintenant la tête est sur le côté. C'est parti.
Donc vous doutez bien que la problématique est exactement la même, la capacité tout simplement à immerger l'épaule pour réaliser une propulsion, mais cette fois-ci la tête est fixée, justement, donc là on est tout à fait réglementaire par rapport à la problématique du dos. Regardez un peu tous les nageurs, et la nageuse en particulier, c'est très bien ce qui est réalisé, dans lequel il y a effectivement une propulsion réelle du bras propulsif, malheureusement ici, isolé de la coordination normale, on va le voir après, mais on est tout à fait dans la logique réglementaire puisque la tête est fixée, même si elle ne l'est pas tout à fait ici, dans cette logique.
On va commencer par faire un temps mort, une main à la cuisse, une main derrière. Donc on fait retour en même temps que propulsion, 1, 2, 3, retour en même temps que propulsion, 1, 2, 3, et ainsi de suite, mais on fait carrément 50 mètres. C'est parti.
Alors, vous doutez bien que si j'ai travaillé sur la coordination en rattrapé, bon là, 1, 2, 3, hein, je ne sais pas si vous comptez 1, 2, 3, moi non. Hein. Là, il faudrait exagérer le temps mort, mais on est bien, sur ce qu'on a vu tout à l'heure en crawl, la capacité de réaliser en même temps une phase propulsive et une phase de retour. Ce qui est dommage, justement, c'est de ne pas respecter les consignes de 3 secondes pour bien vérifier le positionnement statique. Mais en tout cas, ce qui est réalisé ici m'intéresse dans la mesure où on est capable en même temps de dégager une épaule et de réaliser un mouvement propulsif dans un cas, et de dégager l'autre épaule et de réaliser un mouvement de retour dans l'autre cas. On va voir que l'absence de temps mort de 3 secondes est préjudiciable au changement d'orientation des épaules, mais ce n'est pas très très grave ici, évidemment.
Vous allez regarder 3 nageurs, si je les ai choisis, ce n'est pas par hasard. Vous regardez une seule chose, c'est l'épaule par rapport au retour, d'accord ? Où est l'épaule pendant le retour, d'accord ? Regardez l'épaule.
Donc évidemment, j'ai choisi 3 nageurs différents pour regarder tout simplement le dégager de l'épaule au moment du retour.
Ok, qu'est-ce que vous avez vu ? L'épaule est hors de l'eau pendant la totalité du retour. Ok.
Donc ça, c'est intéressant. Épaule hors de l'eau.
Regardez attentivement.
Donc ici, l'épaule est sous l'eau, au moment du retour, hein. Voilà, l'épaule est sous l'eau.
Ah, tout à l'heure, c'était un petit peu mieux.
Donc on voit que le dégagé de l'épaule, il n'est pas vraiment réalisé,
là, moi, je vous dis ce que
à la différence du nageur précédent.
L'épaule est dégagée au début, et au fur et à mesure du retour, elle s'enfonce dans l'eau. Donc elle, tout à l'heure, l'épaule est dehors pendant tout le retour. Ici, l'épaule est dehors pendant le début du retour et après, elle s'enfonce. Et maintenant, vous regardez toujours l'épaule, qui change bien. Hein. Ouais, là.
Évidemment, je les ai choisis par rapport à des comportements, mais tout simplement le fait d'avoir fait des commentaires au nageur précédent va modifier légèrement son comportement.
C'est mieux, mais c'est pas grave. À l'heure, carrément, pendant tout le retour, l'épaule était sous l'eau. Donc on va exagérer le dégagé de l'épaule pendant la phase de retour.
C'est ce qu'on va voir juste après.
Donc on va exagérer le dégagé de l'épaule pendant la phase de retour. Ok ? Donc pour l'instant, on est toujours en rattrapé. Quand je dis rattrapé, c'est opposition de phase, c'est-à-dire un bras fait la propulsion pendant qu'un bras fait retour. L'avantage de faire les deux à la fois, c'est que vous pouvez complètement décaler. Ça ne me dérange pas si vous tournez la tête comme on l'a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on l'a fait sur un seul bras. Là, maintenant, on peut très bien faire ça, ok, puis ça, ok, etc. Donc, on dégage l'épaule pendant tout le retour et on engage l'épaule pendant toute la propulsion sur une longueur. C'est parti.
J'ai pas le temps matériel de vous montrer un nageur de dos expert. Hein. Il faudra faire référence à un autre moment, ce que j'ai présenté tout à l'heure, enfin, dans une autre conférence. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est progressivement de voir l'engagement de l'épaule propulsive et le dégagement de l'épaule retournante. En particulier chez la nageuse, on voit que par rapport à tout à l'heure, c'est mieux dans la mesure où le dégagement de l'épaule se fait pendant un temps un petit peu plus long. La situation, la dernière situation, donc c'est le bilan, l'évaluation, est présentée.
Je fais un dos le mieux possible, dos normal. Alors on tient compte de tout ce qu'on a fait, ça n'est qu'une séance, il y aurait besoin de travailler sur la phase propulsive, etc. Pour l'instant, on fait comme on a fait, ok.
Donc évidemment, un nageur non expert n'est pas devenu expert en une séance, sinon ce serait trop magique. Mais si vous vous souvenez du comportement de ces nageurs au début de la séance et en fin de séance, hein, il y a énormément de travail à réaliser. Mais sur une petite séance de 45 minutes réalisée avec un groupe, eh bien, on voit quand même une propulsion qui est nettement améliorée. Et un dégagé qui est nettement amélioré, une coordination évidemment qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu en début de séance. Alors effectivement, les prises de vue ont été faites à partir de vidéos enregistrées il y a quelques années dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on a aujourd'hui. Et donc on est dans une problématique en situation réelle avec un groupe d'étudiants. Alors l'illustration de la problématique de la coordination des nages alternées en crawl et ici un petit peu plus développée chez le non-expert en dos montre que la coordination spontanée dans les conduites typiques est caractéristique et que le travail qu'on réalise peut permettre tout simplement un début d'adaptation et donc progressivement, si on continue de travailler dans ce sens-là, une amélioration technique assez conséquente. Et donc, je vous remercie de votre attention.